Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce vendredi soir. Eh oui, début du week-end, on l'espère pour tout le monde. Au menu de cette émission, vendredi 19 novembre 2021, le LOSC Monaco. Eh oui, c'est le fameux retour de cette Ligue 1 Uber Eats, sans oublier le Paris Saint-Germain dès demain qui affrontera dans son antre le Parc des Princes les Nantais, eh oui, mais sans un certain Sergio Ramos, pour la plus grande peine des supporters de la capitale. L'Olympico, eh oui, l'OL qui rencontrera l'OM, le show, eh oui, et commencera ce dimanche soir. Sans oublier, eh ben, cette triste disparition. On se pose un peu trop de questions dans la planète sport, mais aussi ailleurs, de Peng Shuai. Allez, n'oubliez pas le 01 53 48 3000 pour réagir en live sur l'antenne de Beurre FM. C'est parti, le JT Sport de Diazon. Gogo Time Sport.
Time Sport.
À tous, on démarre les infos du vendredi par le classement FIFA et l'équipe de France qui conserve sa troisième place mondiale derrière le Brésil et la Belgique suite à ses deux belles victoires face au Kazakhstan et la Finlande. Kevin De Bruyne a officiellement, lui, déclaré forfait face au Paris Saint-Germain mercredi prochain en Ligue des Champions. Le milieu de terrain belge a été déclaré positif au Covid-19 par son club de Manchester City cet après-midi dans un communiqué. En tennis, Temuras Gabashvili a été suspendu pour 20 mois après un contrôle positif au dopage lors du dernier Challenger d'Almaty au mois de juin. Et enfin, en cyclisme, Christian Prudhomme a été, lui, réélu 4 ans ce vendredi à la tête de l'Association internationale des organisateurs de courses cyclistes. C'est tout pour ce soir, en vous souhaitant une belle émission avec Bilal Nenman et toute l'équipe Time Sport.
Super sympa, Jason. Voilà, l'info continue toujours sur l'antenne de Beurre FM avec les replays et aussi sur le site internet, magnifiquement bien fait par l'équipe Webmaster. On le rappelle, beurrefm.net. Et ce soir, pour m'accompagner, on aura Alison, le coach Tollet, sans oublier Sarah. Comment ça va, Sarah?
Ça va très bien. Et toi, Bilal?
Ça va très très bien, Sarah. Aussi, on aura de la partie avec Samir qui sera avec nous. Mais on va aborder le premier sujet de cette fameuse émission.
Time Sport. Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux.
Eh oui, ça va se passer du côté justement de Monaco. Monaco qui reçoit les Lillois 21h ce soir. Et du côté de la principauté, on rappelle aujourd'hui en cette même principauté que c'est la fête nationale. Voilà, pour tous les monégasques à travers la principauté mais aussi le monde. Justement, magnifique match après cette trêve internationale. Sarah, on t'écoute, les monégasques. Allez, avec Samir et Alison.
Bah, d'un côté comme de l'autre, il y a beaucoup de problèmes à soulever. On a un champion de France, 12e ou 13e du championnat, c'est ça ? 12e, 13e ? 12e ?
C'est ça.
Donc, c'est décevant dans l'ensemble depuis le début de saison. Et au final, c'est un peu pareil pour Monaco. Il y a énormément de manques, des problèmes offensifs. Donc, je pense qu'il leur faut un déclic.
Ce déclic, par où va-t-il passer, Alison, Samir, on vous écoute.
Forcément, le déclic, en tout cas du côté de Lille, passera forcément dans le jeu quand on espère gagner, quand on espère des résultats et surtout quand on est champion de France, on espère jouer du moins correctement. Lille, c'est vrai que cette saison, on a du mal à croire que Lille est champion ou que Lille a été champion.
Ouais.
Je ne sais pas dans quel sens du coup on doit le prendre, tellement que cette équipe est en dents de scie, tellement que cette équipe est irrégulière, tellement que cette équipe ne propose pas grand chose au niveau du jeu. On attendait Lille cette saison aussi, mais on les voit pas. Et c'est vrai que du côté monégasque, voilà, il y a pas non plus grand. En fait, sur le papier, c'est un beau match sur le papier quand on dit Lille, Marseille, champion de France, voilà. Mais dans les faits, c'est tout autre chose parce qu'effectivement, du côté de Monaco, il y a plein de manquements. Du côté de Monaco, on voit pas non plus quelque chose de spectaculaire. On voit pas un fond de jeu non plus qui donne envie de regarder cette équipe monégasque. Donc voilà, on attend quelque chose de ces deux équipes.
Ouais.
À titre personnel, je sais pas ce que j'attends de ce match-là.
pour le compte de la 14e journée de Ligue 1 Uber Eats, on le rappelle, hein, après une riche trêve internationale. Samir, allez, on l'écoute.
Je suis assez d'accord avec Alisson. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, à Monaco-Lille, ça avait de la gueule, c'était pas mal. C'était un match qui se regardait, qui se jouait tactiquement, techniquement, donc c'était sympa. Le Monaco-Lille de cette saison, ben, c'est vraiment deux équipes qui se ressemblent. À peu près le même nombre de victoires, de matchs nuls, de défaites. Pareil, à peu près le même nombre de buts en attaque, 16 pour Monaco et 17 pour Lille, ou l'inverse, il me semble. Deux équipes qui se ressemblent. Tu posais la question sur le déclic. Je pense que le déclic, ça va être la trêve hivernale. J'ai comme l'impression qu'ils ont besoin de vraiment d'une pause pour repartir d'un bon pied, parce que sur cette première partie de saison, que ce soit Monaco ou Lille, ben comme Alisson le dit, j'attends pas grand chose.
Ouais.
Parce que sur le fond de jeu, pour tous ceux qui regardent les matchs sur 90 minutes du LOSC et de Monaco,
alors
ben malheureusement on n'a pas 90 minutes
ouais, c'est intéressant.
Régulières de que ce soit du LOSC ou de Monaco. En fait, c'est des cycles, c'est des équipes qui sont régulièrement en réaction. Et ça, c'est perturbant.
Ouais, donc, comment tu l'expliques, ça, Samir?
Je pense que déjà, du côté du LOSC, je vais pas inventer quelque chose en te disant que la perte de Galtier, c'était très compliqué.
Oui, on l'a perdu, il faut se relever, quoi. Enfin, ils attendent quoi?
Il y en a qui n'arrivent pas.
Il y a aussi peut-être que après il y a peut-être l'effet Gourvennec, hein, peut-être que le message il passe pas entre les joueurs et le coach, peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais voilà, en tout cas pour comparer les deux équipes, j'y crois peut-être un peu plus sur Monaco que sur Lille. Voilà.
Bah Lille ne marque pas tout simplement. Attaque, Lille a un problème, donc si effectivement je dois miser sur un camp, ça serait plus le camp monégasque.
Ouais, Monaco, Sarah.
Moi je regardais les stats un peu hallucinantes il y a quelques jours. Il me semble que Lille c'est 19 buts encaissés depuis le début de la saison, tandis que l'année dernière c'était 23 sur l'ensemble de la saison. Donc c'est quand même assez dramatique, si je puis dire.
Non, mais le plus révélateur dans tout ça,
alors c'est quoi?
C'est que on a envie de se dire, est-ce que Lille a été champion par accident? Mais quand on regarde la saison dernière, finalement pas tant que ça, parce que le Paris Saint-Germain s'est écroulé sur le début de saison et sur certains matchs capitaux. On a Lille justement qui s'est accroché et qui a mené la tête quasiment tout au long. Mais quand on les regarde cette saison, on a presque envie de dire c'est un miracle qu'ils aient été champions l'année dernière.
Ouais, dominatrice la saison dernière.
La même équipe.
Mais tu vois, Alisson, le paradoxe, c'est qu'ils arrivent à te créer un mini exploit à Séville, quoi, en fait. Et on voit une équipe
on en avait parlé sur l'antenne, c'est vrai.
Oui, mais après, contre les gros, entre guillemets,
ça va.
Force est de constater qu'ils ont plus ou moins fait le travail, tu vois.
Les attaques sont l'ombre d'elles-mêmes, peut-être cette saison.
Bah, tout à fait.
Ouais, c'est ça.
Je l'ai évoqué brièvement.
On l'oublie.
Tout à l'heure, il y a une grosse disette du côté lillois. Ça marque quasiment plus, ou en tout cas très peu. Et Samir l'a dit, hein, c'est deux équipes finalement qui sont quasi jumelles. À Monaco aussi, on a du mal en attaque.
Mais rien que la saison dernière, quand tu voyais les attaquants lillois, tu sentais qu'à tout moment ça va marquer. Même s'il y avait 0-0 à la 92e, dans la personnalité des attaquants, tu savais qu'il allait se passer quelque chose. Ce quelque chose, on le ressent pas cette saison, en fait. Quand je vois les attaquants, je me dis, l'exploit, il va venir de qui? Il va venir d'où? De quel côté? Bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, j'y crois pas.
Pardon. C'est fou, parce qu'en fait,
c'est
les mêmes joueurs. Alors oui, tu parlais du départ de Galtier, mais ça reste les mêmes personnes.
Comment tu... le message de
Galtier, je pense qu'il y a une... pas. Ouais, mais alors oui, je suis entièrement d'accord.
Il
y a
dû pas correctement.
Il y a dû avoir une démobilisation entre guillemets après le départ de Galtier, mais enfin c'est étrange quand même voir.
T'as des coachs qui arrivent à te transmettre quelque chose et sur le terrain tu le ressens, tu vois très rapidement.
Oui. Sampaoli à Marseille.
Tu vois, par exemple, tu vois la différence de personnalité et de caractère entre Gourvennec et Galtier. En tout cas, si on essaie d'être factuel, tu vois, enfin, le premier argument qui me vient en tête, c'est le coach, quoi, en gros.
Alors,
c'est vraiment la différence des
caractères. C'est l'influence. Tu t'attardes sur ça, mais c'est vrai.
Non, mais c'est vrai, parce qu'après.
L'importance.
On le voit à Nice.
Le mec, il a Saint-Etienne, il récupère un club qui est un peu à l'ouest, il les met en haut du tableau. Il récupère Lille, ils sont champions de France. Il récupère Nice, il fait un super début de saison. À un moment donné, il y a un dénominateur qui est commun dans ces trois clubs, il s'appelle Galtier.
Ouais.
Et là, malheureusement, Gourvennec, est-ce que c'était vraiment l'homme de la situation? De toute façon, je lui donne pas, si en début de deuxième partie de saison, il reproduit exactement la même chose, je lui donne pas très longtemps du côté de Lille. Hein,
Gourvennec.
Et rempli de là.
Je le vois pas perturber après,
bagage.
C'est toujours l'éternelle question, hein, pour le faire remplacer par qui, pour mettre qui sur le banc, pour véhiculer quel message, pour faire quoi de Lille.
Ouais.
Ça, c'est toujours la question qu'on a un peu tendance à se poser en Europe sur les grands clubs, sur les clubs champions, sur les clubs en perdition, mais qui étaient des grands clubs. Voilà, on a du mal actuellement à leur trouver des successeurs.
Et Monaco, je suis un peu moins inquiet parce que Monaco et Lille, c'est deux modèles différents. En fait, Monaco, ça fait des années, des saisons qu'ils ont l'habitude en fait de perdre je ne sais combien de joueurs et de recommencer avec une nouvelle équipe. Limite, ça fait partie maintenant de l'ADN de l'AS Monaco.
C'est limite un centre de formation.
Je suis un peu moins inquiet pour Monaco. Mais par contre, pour Lille, ça va être très compliqué. Hein. C'est pour ça que je disais que la trêve hivernale, je pense, ça va leur faire beaucoup.
Les Lillois qui se déplacent du côté de la Principauté, on le rappelle, fête nationale en la Principauté aujourd'hui. Le coach Tollet, il en pense quoi justement? 14e journée de football de ce fameux championnat Ligue 1 Uber Eats français.
Tu restes sur le bel exploit des Lillois à Séville. Donc tu as envie de te dire que tu as envie de savoir est-ce qu'ils lanceront enfin leur championnat. On est quand même à la 14e journée, comme tu l'as dit. Tu approches de la trêve. On espère en tout cas pour eux peut-être repartir, regrappiller des points pour faire une grosse deuxième partie de saison. Maintenant, après, sur la durée, comme l'a dit Samir, Lille, faut savoir qu'ils sont quand même en grosse difficulté. Hein. Galtier et son équipe savaient qu'ils allaient pas rester éternellement parce que justement, pas mal de mésententes avec la nouvelle direction qui arrivait. Faut savoir que Lille est endettée pas mal. Ouais. C'est pour cela qu'ils ont pas été capables de recruter aussi.
Ouais, le coach.
Comment Lille va pouvoir réagir, c'est ça. Tu t'attends ce tournant justement après cette victoire à Séville qui a quand même relancé les Lillois en Coupe d'Europe, mais maintenant il va falloir aussi remettre le réveil en championnat, parce qu'ils sont, ça commence à faire loin et puis ça prend des points devant, à part le PSG, mais Marseille, Lens, Nice, avance avec une cadence assez importante. Donc,
fais bien nous en rappeler.
Ouais.
Alisson, Samir, avant la pause.
Justement, tu vois, le LOSC, ils ont gardé 80-90% de leur effectif. Mmh. Ce qu'on reproche souvent à des équipes qui gagnent des championnats, c'est que les meilleurs joueurs, ils partent tous à l'étranger, donc faut renouveler, donc c'est dur de gagner un titre la saison qui suit. Là, le LOSC a perdu Galtier, Maignan. Le reste, c'est le même effectif, mais ça marche toujours pas. À part le coach, j'ai pas d'autre explication.
Bah, c'est le coach. C'est ça l'explication, c'est que quand tu gardes, c'est même plus 90%, là, on est à 98%. On a perdu le coach, on a perdu Maignan qui est parti au Milan AC. Donc c'est un message qui ne passe pas. Là, c'est clairement, il y a un problème, il y a un court-circuit quelque part. Au-delà, effectivement, des dettes et tout ce qui se passe un peu dans l'extra sportif, si je puis dire, même si ça reste au sein du club, mais ça touche pas directement les joueurs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Justement, j'aimerais m'attarder sur un autre sujet. On va essayer de le faire aller à ce moment-là.
Sport. La troisième mi-temps.
Oui, on l'a pris par surprise, notre réalisateur. Désolé, a signé du nom de la joueuse Piang Shui, l'internationale chinoise, un étrange courrier qui infirmerait une accusation d'agression sexuelle est véhiculée sur les réseaux sociaux. Où est cette fameuse joueuse de tennis?
Bah, apparemment, elle a réapparu.
Ouais, elle a réapparu.
Elle a réapparu, mais on n'est pas sûr que ce soit elle. C'est un communiqué, en fait. Un communiqué qui a été fait.
Ça reste assez fou, quand même.
Qu'elle est en sécurité. Mais je trouve ça fou. Alors, je critique pas le régime chinois. Hein, je veux pas avoir un problème avec qui que ce soit.
Non, du tout.
Mais c'est monnaie courante en Chine. Ça veut dire que quand on critique le régime, on se fait un peu évincer. On a tendance à un peu disparaître. Il y a le PDG d'Alibaba. Qui avait disparu aussi pendant trois mois. Et au bout de trois mois, quand on se posait la question, mais il est où? Il apparaît sur aucun réseau social. Que fait-il? Où est-il? Et ben là, il est réapparu en public, disant que finalement, il allait bien. Mais on sait ce qui est sous-jacent, c'est le régime chinois.
L'ONU quand même a demandé des preuves. Hein.
Voilà,
faut le rappeler.
C'est
hein.
ça. L'ONU a demandé des preuves. Et là, dans le cas de la tennis woman, il y a le président de l'ATP justement qui demande des preuves et qui demande une preuve physique en tout cas qu'elle va bien au-delà du courrier.
Bien sûr.
Oui, mais parce que le communiqué aurait fait en son soi-disant nom.
C'est ça. Enfin, on sait. Théoriquement, le communiqué, elle dit, enfin, on dit que c'est elle. Elle
oui,
dit que c'est
oui.
elle, mais on ne sait
mais
pas
bon,
si
c'est,
véritablement.
C'est facile c'est... de dire voilà. qu'elle est au courant et c'est qu'elle.
Ouais. Yacine Bouhanni est au courant du transfert de Mbappé ici au Real Madrid. Ah. Ouais. Ouais, Yanis aussi. Ah. Ouais, rien à voir. Mais bon. Bon, il me comprendra. Oui, peut-être. Le coach est allé avant la pause, rapidement.
On est dans une période où. Ça, on va savoir dans le temps si c'est vraiment elle communiquer, etc. Mais le fait de parler de tout ça, c'est on sent que c'est dans l'air du temps. Ça a toujours, faut savoir que ça a toujours existé. Hein. Ça reste quand même extrêmement tabou. Maintenant, c'est important d'en parler. Alors souvent, les gens disent mais pourquoi en parler que maintenant? Pourquoi ça met un petit peu de temps? Faut savoir que lorsque t'es victime d'une agression sexuelle ou d'un viol, il faut savoir qu'en moyenne, tu t'exprimes 8 ans après. C'est 8 ans, c'est énorme, parce qu'il y a un aspect psychologique, il y a tellement de choses dont on n'imagine pas. Mais bon, après, ça ne m'étonne pas.
Le déni, parfois aussi.
Oui, le déni, la peur des autres, et puis ça reste quand même des environnements où si tu commences à l'ouvrir, ça peut mettre ta carrière entre parenthèses, voire on peut t'éliminer sous différentes formes aussi, mais ça on le voit malheureusement à tous les niveaux. Ouais. Mais c'est faut en parler, c'est important.
Et on en parle sur l'antenne de Beurre FM. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs. On revient rapidement avec le Paris Saint-Germain.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Allez, de retour sur l'antenne de Beurre FM, ce vendredi soir, toujours en compagnie de nos deux fameuses consultantes, Alison et Sarah, sans oublier le coach Tolé et Samir. Voilà, pour compléter cette équipe. Avec Yanis et Giovanni, toujours là à la réalisation, mais je sais pas, il est pas heureux. Eh oui, c'est la pression qui monte concernant le fameux Ballon d'Or France Football. Aïe, 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 Lewandowski, Benzema ou encore Léo Messi, on sait pas. Yanis, il aimerait Benzégol. Et nous, on va s'attarder sur le Paris Saint-Germain. C'est parti.
Time Sport, le ras-le-bol.
On espérait Ramos, mais il ne sera pas Ramos. Et ni Marquinhos.
Il a tapé sur la table. Je suis surprise. Je suis surprise que Ramos ne soit pas là. Mon plus grand étonnement. Si je suis sérieuse deux minutes, c'est pas du tout une surprise. On sait que Ramos n'est pas prêt physiquement. Je ne sais pas s'il le sera réellement. Cette saison, je pense que Ramos, il est
court aussi,
mais il faut arrêter quand on connaît l'état de physique dans lequel Sergio Ramos a quitté le Real Madrid, on sait pertinemment que physiquement il y a un couac et que le couac il est très profond et qu'il est très récurrent, c'est-à-dire qu'il avait son genou qui lui faisait du tort, et ensuite que sais-je, mais on sait très bien que Sergio Ramos, je sais très bien, ou je pense en tout cas, que Sergio Ramos cette saison il fera 10 matchs. Et puis c'est tout, s'il en fait 10, c'est très bien. Mais il tiendra pas la saison, il sera pas non plus là pour les gros matchs des champions. Mais alors s'il est là, c'est dans quel état il sera? Faut rappeler aussi, je fais beaucoup de ping-pong, mais que l'année dernière, il a très très peu joué, je crois qu'il a joué 7 matchs avec.
C'est le coach.
Avec le Real. Donc il vient blessé. Vient avec une condition physique qui est pas top, parce que en plus il a pas joué et que la blessure date d'un petit peu. Il vient en ayant joué que 7 matchs sur toute une saison au Real Madrid, donc je sais même pas pourquoi il est venu. Moi, Nasser Khalifi, pour le coup, lui qui a un peu le nez, ou Leonardo qui ont un peu le nez d'habitude, là pour le coup ils se sont fait berner comme des enfants.
Justement, Abdel qui nous dit Ramos qui devait prendre la place d'office d'un certain Kimpembe. Et il sourit. Ouais, en venant du côté de Paris, quoi.
Moi, je suis pas sûr.
Ouais. Samir, Sarah, alors, le coach Tolé, réaction, le Paris Saint-Germain.
Je pense que les supporters parisiens devraient être super contents que Marquinhos ne soit pas dans le groupe. Il a enchaîné les matchs avec le Brésil, il a enchaîné tous les matchs depuis le début de saison avec le Paris Saint-Germain. Donc avec le voyage d'Amérique du Sud jusqu'à Paris, donc c'est pas plus mal qu'il se repose et qu'il se prépare pour Manchester City.
C'est ça.
Quant à Ramos, le gros hic, c'est que s'ils le mettent pas, c'est que vraiment, il est pas prêt à jouer. Parce que si tu as le malheur de le mettre et qu'il se blesse à la 17e minute et qu'il sort je peux te dire que ça va faire les titres pendant je ne sais combien de temps et que le PSG va prendre vraiment, vraiment, vraiment cher. Et puis, pour en revenir à ce que Abdel disait,
ouais.
C'est vrai qu'il y en a beaucoup quand Ramos a été recruté.
Alors
il le voyait en charnière centrale avec Marquinhos.
Mais Ramos a été recruté blessé, les gars. Vous attendiez quoi? À ce qu'il fasse une préparation?
Parce qu'on reste beaucoup sur le nom, Alisson.
Ramos n'a plus 20 ans.
Alisson, c'est vrai, mais tu sais bien, comme le dit que.
Alors, le coach.
Ramos, ça reste. C'est une légende, ça.
C'est le nom.
Il incarne le Real Madrid. Ça a été un des meilleurs défenseurs du monde.
C'est
un des meilleurs défenseurs du monde pendant une dizaine de saisons. Il a joué que 7 matchs. 7 matchs, c'est rien, saison dernière. 7 matchs, les joueurs pros jouent 6 à 8 matchs de préparation. Imaginez-vous, il a pu jouer depuis le mois de mai, il a 36 ans. T'as besoin de retrouver le rythme, les entraînements, c'est bien.
Ouais.
Le rythme, c'est autre chose. Et comme l'a dit Samir,
alors
tu crains la blessure, mais dans tous les cas, même si. Même quand il sera prêt à jouer, il y a le facteur risque en termes de blessure qui risque d'arriver. Parce que quand tu restes aussi longtemps sans pouvoir t'exprimer sur un terrain, il y a un déséquilibre au niveau de ton corps. Donc forcément, tu es amené à avoir des pépins physiques. C'est là que ça va être compliqué aussi pour le PSG dans la gestion de Ramos.
Ouais. Moi, ce qui m'interpelle quand même un petit peu, c'est qu'on nous a dit que le PSG était très étonné de l'état de forme de Ramos quand il a été recruté. C'est du foutage de gueule.
C'est lunaire.
C'est vraiment lunaire.
Ouais.
Donc le Caramos, c'est un éternel débat qui devient un peu stérile parce que voilà, enfin, il jouera très certainement pas pendant très longtemps.
Ouais.
Et voilà, enfin, je sais pas quoi dire sur le Caramos. Franchement,
Mané qui nous dit qu'au final, Kimpembe est le joueur le plus utilisé du club cette saison.
Eh
ouais,
ah
ça
oui,
vient.
Il a beaucoup joué.
Ah ouais.
En fait, on lui tombe beaucoup dessus. Hein.
Beaucoup joué, mais il a fait un début de saison.
Déjà bas, surtout.
À son image un peu catastrophique pour rebondir. Non, mais c'est vrai, il a été catastrophique. Voilà, il était catastrophique.
Ouais, mais bon, s'il était un petit peu mis de côté parfois, je pense qu'il pourrait souffler. Et
bien sûr,
il joue en équipe. Enfin, là, il n'était pas en équipe de France, mais voilà, il est en sélection, il est en club. Enfin, à un moment, un joueur a besoin de.
Bien sûr. Pour rebondir, est-ce que tu as dit, Sarah, par rapport à Ramos? Tu peux avoir en fait ton corps nickel comme Ramos le demande depuis 6 mois, on le voit faire des pouces un peu à droite à gauche. Mais après la réalité c'est que tu peux être affûté comme ça, mais ton corps il est intérieurement.
Il y a un staff médical derrière quand même.
Oui,
tu peux pas sortir une info pareille alors que
c'est vrai qu'ils sont foirés à ce niveau-là.
Mais
la réalité c'est que Ramos a régulièrement joué, très peu été blessé, beaucoup joué sous infiltration aussi les dernières saisons. Et là, aujourd'hui, le paye cash.
Et puis, contrairement à d'autres joueurs qui, même avec des pépins physiques, jouent, j'ai même beaucoup de joueurs de foot qui me disent au contraire, quand j'ai une petite douleur au mollet ou un petit truc qui tire, au contraire, ça me demande encore plus de concentration. Et quand des fois j'ai un petit pépin physique, je suis encore meilleur, en fait. On me l'a déjà dit, ça, tu vois. Et à l'inverse, j'ai lu dans des presses à droite à gauche que Ramos, s'il ne se sent pas prêt à 100%, il ne joue pas le match. Donc s'il est à 80-85%, il préfère pas prendre le risque de jouer le match. Donc on ose espérer, en tout cas, que si jamais on le voit sur une feuille de
match,
c'est pour jouer 90 minutes.
Mais si
on l'espère,
on ne reverra peut-être pas, parce que tu ne peux pas être à 100% parce que tu n'as pas joué depuis belle lurette. Hein.
Ça serait intéressant quand même de voir Ramos, Samir. T'es d'accord avec ça?
Bah oui,
à part
les photos Instagram à l'entraînement avec le PSG, t'as envie de voir Auteuil, Boulogne dire son nom, t'as envie de le voir tacler, t'as envie de le voir crier sur l'arbitre, sur les adversaires, t'as envie de le voir motiver le groupe.
Verratti est très bon dans l'arbitre,
avec l'arbitre, il est bon, Verratti. Ouais. Bah, ils feront la paire tous les deux. Mais t'as envie de voir un homme de caractère dans cette équipe.
Je suis même pas certain qu'on va se Sergio Ramos pour le coup. Honnêtement, moi je le dis depuis le début.
Alors,
quand j'ai appris la signature de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, j'étais pas du tout emballé, moi.
Alison, je suis désolé de te couper, moi j'étais pas emballé juste pour une chose, pourquoi on jette Thiago Silva pour récupérer Ramos? Ça, je ne comprends pas, en fait.
C'est le nom.
Désolé de te couper, voilà. Mais ça, moi c'est mon
l'approche de la phase finale de 2022 au Qatar, la Coupe du Monde.
Bah oui.
Voilà.
Ouais, mais encore une fois,
ça fait effet peut-être, Samir, Alison.
Exactement. Moi, c'est exactement pour ça que je pense que le Paris Saint-Germain a choisi Sergio Ramos. C'est que pour le côté marketing. Parce qu'on ne peut pas se dire que le staff médical, je suis désolé, on n'est pas médecin autour de cette table. Et on arrive quand même à faire le constat amer que quand un joueur ne joue pas, quand un joueur est blessé, pourquoi le recruter? Là, il y a quand même un staff médical, il y a un directeur sportif. On sait que Sergio Ramos n'a pas joué depuis longtemps. Alors, tout ce qu'il faisait là sur Internet, monter une pente et descendre une pente, ouais, c'est que de la communication pour dire, ouais, regardez les gars, je suis bien physiquement. Mais on savait très bien que ça n'allait déjà pas au Real Madrid. Donc voilà, tout ça, ça montre bien que sportivement, il n'y a aucun intérêt pour Ramos, mais marketingement, il y en a un gros.
On le rappelle, demain samedi, 17h du côté du Parc des Princes, les Parisiens recevront les Canaries. Voilà, un petit clin d'œil aussi à Didier Kim, Canaries dans l'âme. Mais aussi, on le rappelle, à l'agenda, c'est ce mardi 24 novembre, 21h, groupe A, la cinquième, l'avant-dernière journée de cette phase de groupe de la Ligue des Champions, édition 2021-2022. On nous dit que, justement, que l'international belge Kevin De Bruyne est testé positif à la Covid-19. Ouais. Oui, mercredi. Excusez-moi, j'ai dit mardi. Non, mercredi 24. Ouais.
De Bruyne manque souvent les gros matchs. Hein. Soit il est blessé, soit il a le Covid, soit on lui casse le nez, soit il est un peu fatigué. Enfin, j'adore Kevin De Bruyne.
Il est forfait, en tout cas.
Mais on fait un constat amer. Bon, là, pour le coup, c'est pas de sa faute. Mais je fais le constat que dans les grands matchs, Kevin De Bruyne est souvent absent, malheureusement.
C'est ce qu'on lui reproche un petit peu.
Alors,
c'est ce qu'on lui reproche un petit peu, c'est ce qui lui manque aussi peut-être un petit peu. Après là, ça fait quand même depuis bien 6 mois qu'il est moins bien, qu'il a enchaîné les blessures. Donc c'est une année sans pour Kevin De Bruyne. Mais bon, j'ose espérer qu'il reviendra quand même plus fort en 2022.
Le Paris Saint-Germain prêt pour ce grand rendez-vous? Allez, avec ce match,
c'est la grosse question. Mais moi, un petit peu.
Il y a des choses incertaines sur Jason.
Un petit peu comme Sarah, très pessimiste sur le match, mais pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour moi, c'est comme si c'était le premier vrai test du Paris Saint-Germain depuis la reprise. C'est-à-dire que même si tu les as battus au match aller, mais t'étais à la maison, t'étais chez toi, bon, ok, là, tu vas à City, mais tu vas à City avec un Neymar peut-être diminué, avec un Messi qui finalement n'est pas encore le Messi qu'on a toujours connu. Oui. Di Maria, va-t-il jouer ou pas? Icardi, franchement, j'ai même pas envie de citer son nom, c'est le mec offensivement qui me saoule le plus au Paris Saint-Germain.
Oui,
on en a tous. Hein. Moi, je peux te dire, ma dernière histoire d'amour, personne n'est au courant, moi, tu vois. Donc je suis un peu pessimiste et voilà, c'est un peu ce qui est pointé du doigt depuis le début de saison au Paris Saint-Germain, c'est qu'on n'a pas encore trouvé cette mayonnaise, elle n'a pas encore prise. Bah, malheureusement, on attend que le Paris Saint-Germain nous déroule le jeu qu'on a tous envie de voir. Quand tu vois les noms qu'il y a dans cette équipe individuellement, tu te dis mais comment ça ne peut pas prendre collectivement? Et on attend que ça du Paris Saint-Germain. Donc pour moi, c'est le premier vrai test, puisque je pense que Guardiola va vouloir sa revanche du match aller.
Ouais.
Avec ou sans Kevin De Bruyne, comme tu le dis, c'est pas la première fois que De Bruyne est absent.
Ouais, j'ai
envie de te dire. Et en plus Guardiola, de toutes les façons, c'est pas Klopp, il fait pas un 11 titulaire fixe tous les week-ends.
Ouais.
Il a l'habitude de faire de turnover, donc Guardiola, il sera pas du tout mal à l'aise vis-à-vis du Paris Saint-Germain. Donc moi, pour ce match, je dis avantage Manchester City, malheureusement, évidemment.
Manchester City,
même au-delà
Sarah.
De ça, quand tu regardes les matchs en Ligue 1, enfin, c'est pas du tout rassurant. Je sais pas ce que t'en penses.
Oui, selon toi.
Non, je suis d'accord. Et ce qui fait encore plus peur, entre guillemets, pour ce Paris Saint-Germain, c'est que pour l'instant, l'effectif au complet n'a jamais été là. C'est-à-dire que soit il manque Neymar, soit il manque Verratti, soit il manque Léo Messi, soit il manque Kylian Mbappé. Quand l'un revient, l'autre se blesse. Quand l'un revient, l'autre est indisponible. Donc finalement, cette mayonnaise dont parlait Samir, on n'a pas, même Pochettino, le pauvre, n'a même pas eu le temps de la faire prendre parce qu'il ne disposait pas de ses meilleurs éléments au même moment.
Alisson, donc, c'est vrai.
Donc, ça devient compliqué pour le Paris Saint-Germain d'établir le fond de jeu, justement, qu'il cherche. Ce fameux milieu solide qui fera briller le trident d'attaque. Ils sont jamais disponibles au même moment, les gars. Donc même pour lui, ça devient difficile de construire une équipe avec des automatismes, parce que Léo Messi, il découvre la Ligue 1 et il découvre aussi ses partenaires. Donc voilà, c'est compliqué. C'est compliqué.
Si défaite du PSG, peut-être décriée encore un peu plus. Pochettino, entraîneur argentin.
Alors Pochettino, le PSG, non, mais Pochettino, je pense.
Pochettino, oui.
Tu tapais dessus.
Et d'accord.
Mais au final, le PSG va se qualifier.
Bah oui, bien sûr.
Ça, non, mais au final,
il aura peut-être une finale contre Bruges à domicile.
Ils vont se qualifier quand même, je pense, le Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que.
On a dit la même chose à France-Suisse. Hein. On a dit on va passer facilement.
On s'en souvient.
Non, mais quand tu regardes, par exemple, que Manchester, face à Bruges, c'était le résultat final, je crois que c'était 5-1, un truc comme ça, avec nous, on fait un minable match nul. Enfin, tu vois, quand même. Alors, je veux pas sous-estimer. le club de Bruges, mais
Mais regarde, la Roma a bien pris 6 buts à 1 contre une équipe dont on ne connaît pas le nom aujourd'hui.
Bien sûr.
Le nom du club aujourd'hui.
Et même le Real Madrid en Ligue des Champions a perdu 2-1 contre un club que je ne serais même pas citer. Est très compliqué.
Limassol.
C'est ça.
J'en ai même pas sûr.
Je vais te dire oui parce que je ne saurais pas te corriger.
Et c'était à domicile, donc oui, tout est possible.
Exactement.
C'est aussi ce qui fait la beauté du football aussi.
Exactement.
Oui, peut-être. On va marquer d'une courte pause avant de revenir avec justement l'Olympico de ce week-end, 21h du côté de Lyon. Voilà, ce dimanche soir. On va voir si ça va être bon. On l'espère. Limassol, il me parle d'une défaite. On va savoir après ce match-là de dimanche. On l'espère, Samir. Allez, à de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Comme annoncé, il ne faudra pas oublier le rendez-vous de ce mercredi 24 novembre à 20h45, le match qui opposera Manchester City au Paris Saint-Germain. Et nous, on va rester dans cette fameuse Ligue 1 Uber Eats pour parler de cette 14e journée avec un Olympico.
Time Sport.
On n'oublie pas, pour les amis turcs, eh oui, parce qu'il aime beaucoup notre réalisateur, le football turc, Yanis, le derby de ce week-end, hein, il va opposer, je crois, Galatasaray à Fenerbahçe. C'est bien ça, je crois, le match. C'est ça. Voilà, un petit clin d'œil à Iker aussi. Ça fait sourire, Sarah, mais on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on parle, je crois, de Lyon.
Semien n'était pas du tout au courant.
Le 21 novembre à 17h. Une petite vérification directe.
Non, tranquillement.
Un clin d'œil du côté de Montrouge aussi.
Ah, Montrouge.
Tout Montrouge nous écoute ce soir.
Ah ben Montrouge, dédicace. Et personne en particulier, peut-être.
Non, mais enfin, il y a beaucoup de monde en tout cas, Ils sauront se reconnaître.
Ah ben ok. Allez, on va
s'attarder. Tu vas pas nous faire une gardie là, nous dévoiler des
choses. Mais Sarah, quand même.
Des dédicaces privées ici.
Arrête. Après Samir, Claude. Eh oui. Allez, l'Olympique de Marseille et aussi avec les Lyonnais.
Time Sport. Le duel.
Oui, c'est l'OM qui se déplace à l'OL. C'est bien ça. Ne te moque pas. Samir, justement, l'Olympico, comment va-t-il se passer ? Assez chaud.
Moi, c'est clairement le match que j'attends sur cette journée de championnat, mais de toutes les façons, comme tout le monde.
Journée.
Mais je l'attends encore plus parce que si l'OL gagne, ils reviennent à un point de l'Olympique de Marseille. Et puis,
ça, c'est fort.
Puis Lyon, ils ont quand même fait une petite remontada dans le classement parce qu'ils ont mal démarré à l'instar du LOSC et de l'ASM. Mais à l'inverse, Lyon est bien remonté. Donc s'ils gagnent, ils reviennent à un point de l'OM. Et
son septième, là.
Je l'attends aussi pour une deuxième raison, c'est que les 3-4 derniers matchs et de Lyon et de l'Olympique de Marseille n'étaient pas vraiment top, que ce soit au niveau du résultat, mais aussi sur le fond de jeu. Donc les Lyon-Marseille, en règle générale, ça a toujours donné des beaux matchs ouverts avec du spectacle
et
plein de buts. Et je pense qu'avec Sampaoli sur le côté en feu comme d'habitude, et puis des joueurs lyonnais avec des individualités qu'on connaît, je pense que ça peut donner un très gros match et surtout relancer la première partie de tableau, les 5 premiers du classement plutôt.
Ouais, le côté tollé.
Bah, c'est l'autre gros match pour les Marseillais. On sait que le PSG est dans une sphère, dans une autre galaxie. Donc c'est vrai que l'Olympico a pris surtout une nouvelle dimension parce que le PSG s'est envolé vers d'autres cieux. Donc comme le dit Samir, non, mais ça reste un des gros matchs de notre championnat. Et puis le coach lyonnais aussi qui met quand même un plan de jeu en place. Alors il y a peut-être pas encore totalement les résultats, mais tu sens que ça peut prendre, ça peut être le bon match hein, pour Lyon pour justement franchir le cap et rentrer vraiment dans la course aux places européennes. Ça va être ouvert. Indécis comme d'habitude.
Ils peuvent envoyer un message au club, aux concurrents directs.
Dire qu'on est là, c'est pas fini, bien sûr.
Moi, je suis d'accord sur le fait que être un gros et beau match. Après, je donnerai un petit avantage à Lyon quand même.
Allez, les Lyonnais.
Ouais.
Et pourquoi ça ?
Parce que je les sens hyper solides à domicile. Je crois que sur toute compétition confondue, ils ont plutôt gagné. Enfin, ils ont gagné même à domicile. Après, je sais pas. Je sais pas.
Ouais. Alisson.
Moi, je pense alors que d'un point du jeu, pour le coup, ça va être un beau match. Samir l'a dit, ça va être un match ouvert. Ça va être un match où on va voir des choses. En tout cas, contrairement à l'autre grosse soi-disant affiche de ce soir qui pour moi sera nulle, là pour le coup c'est une vraie affiche qui donne envie, qui représente bien la Ligue 1, surtout la Ligue 1 de cette année. C'est-à-dire que on voit des gros matchs, on voit des belles équipes, on voit des belles équipes qui jouent au foot, on voit Marseille qui joue au foot, on voit Lyon qui joue au foot, on voit un Olympico avec deux belles équipes pour le coup. Donc je pense qu'on aura un gros match, peut-être même un grand match, on verra, mais je pense que l'équipe de Sampaoli va l'emporter.
Conrad de la Fuente revient.
Vois, Lyon, il y a quand même.
Elle avait disparu de la circulation. Oui, Sarah.
Non, ouais, je voulais juste revenir sur Lyon et l'échec assez cuisant face à Rennes. Donc là, je pense qu'il y aura vraiment une envie d'effacer un peu ça des mémoires et oui, effectivement de.
Ouais.
Moi, je m'attends à un match très ouvert.
Et on doit se racheter. Alors, Samir.
Tactiquement, tu as deux équipes qui sont vraiment portées vers l'avant. Bah, un des défauts de l'Olympique de Marseille, c'est que c'est vrai, ils font kiffer parce qu'avec leur attaque rapide, c'est vrai que sur les côtés, ça va très très vite. Bon, c'est pas encore autant efficace qu'on le souhaite, mais il y a des intentions de jeu. Donc ça, c'est plutôt plaisant. Et par contre, leur défaut depuis le début de saison, c'est les boulevards qui laisse derrière. Et je pense
aussi,
que Lyon à domicile sauront en profiter. Donc et que ce soit l'OL, que ce soit l'OM, c'est deux clubs qui malgré tout, malgré leur attaque de feu, prennent quand même aussi pas mal de buts depuis le début de saison. Donc je m'attends vraiment à un match ouvert avec plein d'occasions et beaucoup de buts. Hein.
Beaucoup.
Oui, beaucoup, selon Sarah. Ouais, je crois que j'ai tolé. Réaction.
Je rejoins Samir, mais paradoxalement, Marseille est un peu plus solide depuis. Alors, on met beaucoup en avant Saliba qui fait un gros début de saison.
Ouais,
mais le retour en force de Keita Tsar, dont on parle pas souvent, qui a vraiment solidifié l'axe. Oui, moi.
Ouais, c'est vrai.
Bah oui,
c'est
mais
vrai,
je le suis. Et avec Saliba, avec Luan Pérez, discret mais précieux, l'OM prend moins de buts, mais. Je les ai trouvés un peu plus émoussés aussi offensivement. Faut pas oublier que Milik a été remis aussi sur le devant de la scène, mais Milik n'avait plus joué depuis 4 mois, donc on voit ce que c'est lorsqu'on manque de temps de jeu. Donc on l'a trouvé plutôt lourd, etc. Il a été un petit peu mieux là avec la sélection. Marseille, ce côté
plus.
Un peu imprévisible quand tu vois aussi les joueurs qu'ils ont. Tu dis que De La Fuente revient, mais c'est vrai qu'il a fait un gros mois d'août et depuis, t'attends un petit peu plus. T'as Harit. L'air de rien, l'OM a quand même la majeure partie de ses joueurs offensifs qui se cherchent encore. Ce qui montre quand même le potentiel impressionnant qu'a Marseille. Mais ça va être intéressant. Hâte d'être à dimanche ce soir.
Ouais. Dimanche ce soir, on verra bien. Alisson, dubitatif peut-être, sans voix. Ouais, on a l'impression de voir des matchs, on le rappelle. Le LOSC, Monaco, oui.
Ouais.
Samir, vas-y, on te laisse réagir.
Mais on a hâte, et puis c'est surtout.
Une grosse question, là, pour les.
Quand je parlais de buts encaissés par l'Olympique de Marseille, évidemment que je pensais également à l'Europa League. Et que voilà, on peut considérer qu'un Lyon-Marseille, ça peut ressembler à un match européen, quoi. Donc c'est un des plus gros matchs de la saison. Mais comme le dit Claude, c'est vrai que sur les côtés, les joueurs, il y a des intentions, mais c'est pas encore ça. Il manque la dernière passe, il manque la passe décisive, il manque par exemple l'efficacité qu'un Dimitri Payet a. Dimitri Payet, tout ce qu'il fait depuis le début de saison, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, c'est à chaque fois juste.
Ouais.
Toutes les passes sont bonnes, son positionnement, il est toujours bon, il se met toujours dans la zone libre. Il cherche toujours à être efficace, soit la passe décisive, soit le but. Et malheureusement, les joueurs qui sont autour de lui, ils sont pas encore aussi justes que lui. Et je pense que c'est ce que Sampaoli doit chercher offensivement.
Sampaoli, peut-être l'homme de la situation de cette nouvelle ère de l'Olympique de Marseille. En tout cas, l'influence qu'il porte.
Pour l'instant, oui. L'influence et surtout l'état d'esprit qu'il transmet joueur marseillais, c'est la grinta sud-américaine.
Il faudrait le passer au dépistage, d'ailleurs.
Mais c'est comme Simeone, tu vois. C'est des gens qui vivent le football. Ils peuvent pas rester comme Didier Deschamps, assis calmement, machin. Non, ils sont obligés de se lever, de crier, de jeter les bras et le corps tout entier.
Mais finalement, son effectif est pareil. enfin quand tu vois, ils se ressemblent vachement.
Mais justement, c'est cette énergie-là qui leur transmet, parce que malgré tout, on a des genoux quand même dans cette équipe de l'OM, et voilà, et ils leur transmettent quand même quelque chose. Mais là où quand il fera passer Marseille sur un palier beaucoup plus au-dessus, c'est quand effectivement en attaque ça mettra les buts au fond, et que quand ça tergiversera beaucoup moins aussi ailleurs. Quand c'est bien de faire un pressing haut, mais c'est bien aussi de reculer, savoir se replier. Donc il y a quelques défauts aussi à gommer.
Faut pas oublier que du côté de l'OM, on met en avant donc le jeu Sampaoli, c'est quand même fort, c'est que t'as eu énormément de recrues. Enfin, l'équipe a été totalement remodelée, hein. Contrairement, par exemple, on parlait du PSG Pochettino qui a son équipe, n'arrive pas à trouver la bonne carburation. À part Messi qui est arrivé, c'est qu'elles ont le même effectif. Il n'y a pas vraiment de projet de jeu. Sampaoli, à son niveau, bien sûr, a été capable déjà d'insouffler quelque chose, même si tout le monde ne trouve pas encore la bonne carburation.
Justement, on va essayer d'avoir en cette fin d'émission les pronostics du match de ce week-end qui opposera l'Olympique Lyonnais à l'Olympique de Marseille. On va s'attarder sur une question qui fait jaser un peu sur Internet, sur les réseaux. On a un petit peu peur à la poser, mais vraiment, on va s'attarder sur ces nations du football africain.
Time Sport, le mode pressing.
Ah, ne me regarde pas comme ça, Sarah, ne t'inquiète pas. J'essaie de ne pas faire peur, on va dire, de prendre de l'assurance aussi. Parce que moi, j'aimerais voir aussi une demi-finale, voire une finale avec un pays africain, ça c'est promis. Le Mali, l'Égypte, le Maroc, Addison, le Sénégal, le Ghana, la RDC, l'Algérie, le Cameroun, le Nigeria, ou est-ce encore la Tunisie ?
Eh ben, tu sais quoi ?
Ouais.
Je crois, hormis le groupe où tu avais la Côte d'Ivoire et le Cameroun ensemble, je crois que tu as même historiquement les meilleures nations du continent. Et je crois que ça fait très longtemps qu'on n'a pas retrouvé.
Ça fait kiffer.
Achille en parlait justement.
T'as toujours eu des surprises. C'est vrai qu'il y a une émergence quand même de ces clubs du top 10 africain où il y a un gros travail qui est fait.
Ouais.
Mais là, quand tu les cites, on retrouve historiquement les meilleurs.
Les meilleurs pour peu de place, justement. Les meilleurs pour peu de place.
Ça, c'est un autre débat et un vrai problème.
Selon Kamel, selon même moi, dont on en parlait avec toi, le coach aussi.
Comment tu peux te retrouver à disputer des matchs aller-retour ? Tu finis premier de ta poule ?
Bien sûr. On est bien d'accord. Là est le problème du football africain.
À part l'Océanie, où t'as sans leur manquer de respect,
à l'échelle mondiale,
tu as joué le 5e ou 6e de l'âme sud, tu finis premier de ta poule dans un continent qui est extrêmement compliqué, et tu n'es pas sûr d'aller au monde. Mais
c'est du manque de respect selon Alisson. Et moi, en fait, j'aimerais m'attarder. Je vais regarder directement Samir, parce que on a un petit peu peur avec toutes ces belles nations, comme le dit le coach Tolé, que l'Algérie n'y aille pas.
C'est possible.
On ne sait jamais.
Là, tu as quasiment les 10 meilleures sélections africaines, et tu sais, sur un match aller-retour, tout peut se passer. Tu vois, il suffit que tu tombes sur l'Égypte. Là, tu as un Mohamed Salah qui est en feu. Tu l'as vu sur le dernier match que.
Pour le coup, tu peux prendre le Sénégal et avoir peur. Parce qu'après les autres.
Oui, l'Égypte aussi, tu peux avoir peur. Le Cameroun, tu peux avoir
aussi,
peur. Tu peux avoir peur de
l'Algérie, championnat de
titre. Et tu sais, le football, c'est vraiment un ensemble de détails. Il suffit que tu as un blessé à la 18e, tu prends un carton rouge en deuxième mi-temps. Plein de petits détails comme ça qui fait que le match aller, tu le perds bêtement. Au match retour, va rattraper le score. Tu vois. Donc, ça va être très, très compliqué. Et puis, Je lance vraiment une pièce au pronostiqueur de nous trouver là les cinq qualifiés. Ça va être très compliqué. Hein.
Ça va être très compliqué.
Il y a tout le monde qui voit un peu la RDC être un peu l'équipe qu'il faut avoir, parce qu'on en parle tous de notre côté avec les copains.
Bien sûr.
Et ben justement, c'est pour ça que j'en parle.
Moi,
je suis pas d'accord avec ça.
Non, mais
toutes les équipes ont leur mot à dire, justement.
Tu fais bien de prendre l'exemple de la RDC. C'est vrai que quand on voit le parcours de la RDC, là, en tout cas, en groupe, c'était une qualification avec un peu de chance, parce qu'il y a eu vraiment le sursaut d'orgueil sur les deux derniers matchs contre la Tanzanie et contre le Bénin. Mais avant, on a perdu contre Madagascar. Il y a eu un peu, n'importe quoi. Mais par contre, ce qui est aussi compliqué avec la RDC de manière positive ou négative, c'est que justement, sur deux matchs, la RDC est capable d'être solide. Sur deux matchs, la RDC a les éléments pour répondre à quasi n'importe quelle autre équipe d'Afrique. Et justement, les gens qui disent que la RDC c'est un peu l'outsider, faut se méfier. Ouais. Attention. Alors,
d'accord.
Pourquoi Alison il dit ça? Parce que contrairement aux autres grosses nations, tu prends l'Algérie, tu prends le Cameroun, tu prends le Sénégal, tu prends l'Égypte, les meilleurs joueurs vraiment de ces Français en général d'origine jouent pour ces sélections, contrairement à la RDC. Ouais. Qui est un peu victime de son de l'instabilité aussi du pays, où les meilleurs joueurs congolais évoluent avec l'équipe de France en général ou avec la Belgique. Maintenant, tu as de très bons joueurs qui évoluent en première ligue.
Alors,
t'as l'éternel Bokani qui continue à marquer malgré ses 35 balais. T'as Kakuta qui est là. Aussi. T'as Imbula qui va aussi revenir. Et c'est un petit peu la RDC, l'image un peu du pays, pays à très fort potentiel, capable de s'incliner contre la Tanzanie, mais qui peut être capable de poser des problèmes pour n'importe quelle nation. Pour en revenir à ce que disait Samir, là, il va avoir quand même il y a un chapeau
avec
les favoris, l'Algérie, je crois.
Ouais.
Algérie, Cameroun, Sénégal.
C'est ça.
Je suis pas sûr.
Hein.
Non, pas le chapeau, mais en tout cas, Samir disait.
En fait,
si on dégage les 5,
les 5 premières nations africaines ne peuvent pas se rencontrer entre elles, en fait. Voilà.
Oui.
Donc, en gros, là, l'Algérie, tu peux par exemple tomber de mémoire contre l'Égypte, tu peux tomber contre
le Cameroun, je crois,
le Ghana. Contre le Cameroun, contre le Mali.
Contre le Mali.
Le Mali, ils sont en pleine progression depuis un moment. Donc
Là, en fait, là où je reviens, c'est que c'est vrai que l'Algérie, on les a beaucoup. Alors, ils sont invaincus, ils font un parcours exceptionnel. Mais attention, parce qu'on les voit trop beaux tout de suite. Mmh. Le Burkina Faso, on n'en a jamais parlé, mais si le Burkina met un troisième but, l'Algérie, c'est terminé. Mmh. Il n'y a jamais eu ce risque-là dans notre communication aussi. Et là, comme Samir, comme il l'a dit, c'est que le Cameroun, tu prends le Cameroun, par exemple. Ils sont d'outsiders par rapport à l'Algérie, mais eux, ça leur va très bien.
Exactement.
Ils savent très bien qu'ils ont les armes, les joueurs pour, et sur une confrontation aller-retour, tout dépend si le match aller peut se dérouler aussi, peut-être à Alger ou à Yaoundé, par exemple, ça va très vite.
Le chapeau 1, Sénégal, Algérie, Maroc, Tunisie, Nigeria, Sarah et Alison, le chapeau 2, Égypte, RDC, Mali, Cameroun et Ghana. Voilà. Alors,
pour voir le verre à moitié plein, t'as quand même un petit signe du destin qui renvoie Jamel Belmadi au Qatar. Tu vois, lui,
c'est vrai.
Il a sélectionné le Qatar. Il y a tous les éléments qui sont là pour qu'il finisse en fait. Parce que pour moi,
il va faire la Coupe du Monde s'il se qualifie et ensuite il arrêtera après cette Coupe du Monde là. Et il y a tous les petits détails qui font que pour continuer à avoir le verre à moitié plein. L'Algérie maintenant a un minimum d'expérience. Ils viennent de gagner une CAN. Jamel Belmadi, il s'appuie quand même sur un groupe qu'il connaît maintenant très très bien. À un ou deux éléments près, le 11 titulaire, on peut tous le donner de l'équipe nationale d'Algérie. Les joueurs se connaissent de plus en plus. Maintenant. C'est des joueurs qui jouent maintenant dans des clubs très très importants. Donc c'est sûr que la position de favori, elle est pas simple à porter parce que ça te demande de la responsabilité. Mais je pense que l'Algérie en tant que favori est capable de le faire.
Même.
Mais ce qui me met en confiance, c'est que on a des armes, mais que de deux, moi ce qui me donne confiance, c'est Jamel Belmadi. Parce que je pense que lui, a vraiment les pieds sur terre. Ouais. Il laissera jamais son groupe avoir la grosse tête ou éviter une possible élimination de cette Coupe du Monde qui serait un désastre pour l'Algérie qui est un peuple mordu du ballon rond et voilà.
Incroyable. Ouais, on
l'espère pas. Pour le coup, ça serait miracle. On n'est pas qualifié pour la CAN, se qualifier pour la Coupe du Monde, je prends.
Ça serait.
Moi, je veux le Qatar direct, j'achète mon billet.
Ça ferait du bien aussi à RDC qui a été la première nation d'Afrique subsaharienne à participer au mondial. C'était sous le nom du Zaïre en 74. Depuis, plus grand chose, mais l'image, malheureusement, de ce grand pays au fort potentiel, mais qui a connu différents soucis, qui en connaît encore malheureusement à l'est du pays dont on ne parle
pas.
Et je pense que ça ferait vraiment du bien pour cette grande nation du football africain qui sort des joueurs souvent à très fort potentiel.
Et ça donnera aussi envie aux binationaux, à l'image justement de l'Algérie et du
on
travail
en parle
de
à chaque fois sur
ça donnera envie aux binationaux de venir jouer en sélection.
Allez, l'Olympico de ce dimanche soir, le pronostic OLOM avec le coach Tolé.
Un partout,
Alison.
2-1 Marseille.
2-1 Marseille, Sarah.
2-1 Lyon.
Et Samir.
3-2 Lyon.
3-2 pour Lyon. On se retrouve dès lundi prochain à partir de 20h pétante. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Bye bye et très bon week-end à toutes et à tous.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.